Un beau-frère, septième partie. À ce mot, Sénéry, bien que ficelé étroitement, fit un effort qui cassa une des cordes. Mais les gendarmes qui le guettaient se jetèrent sur lui avant qu'il eût pu se dégager et lui passèrent les menottes. Pris d'un véritable accès de folie furieuse, il se débattit comme un sauvage. Puis, lorsqu'il eut été mis dans l'impuissance de remuer bras et jambes, il injuria les gendarmes en vociférant.
Décidément, dit le maréchal des logis en se tournant vers ses hommes, il est bien fou.
Instantanément, cette simple parole lui rendit la conscience de lui-même et de la situation.
Déliez ces cordes, dit-il. Je vous promets de ne pas me défendre et de ne pas me sauver.
Mais le maréchal des logis haussa les épaules en secouant la tête.
« Pour que vous nous arrangiez comme tout à l'heure ? Non, merci. Regardez donc Ribière, il a le nez cassé. »
En effet, le gendarme qui avait reçu le coup de poing ne pouvait arrêter le sang de sa blessure qui se tuméfiait. Le coup avait été terrible. La vue du sang et de ses déchirures acheva de calmer Sénéry en le rendant honteux de lui-même.
« Je vous donne ma parole d'honneur, » dit-il doucement. De vous suivre. Vous savez bien que je ne suis pas fou. »
Les trois gendarmes se regardèrent, pas un ne bougea.
« Si vous n'étiez pas fou, dit le maréchal des logis, vous êtes un homme trop bien élevé et trop instruit pour vous être mis en rébellion. Vous auriez pensé à la loi au lieu de nous assommer.
Vous vous êtes jeté sur moi.
Est-ce qu'on vous a brutalisé?
On nous avait prévenu que vous feriez résistance. Nous avons voulu vous en empêcher.
Si vous n'êtes pas fou, vous devez comprendre que, puisque nous avions un ordre, il fallait l'exécuter.
Croyez-vous que c'est pour le plaisir qu'on arrête une personne comme vous?
Mais ce n'est pas tout, ça. Il faut nous suivre. Nous avons une voiture au coin de la route, là-bas.
Où est la réquisition du préfet?
Voilà celle du maire, dit le maréchal des logis en dépliant un papier qu'il lui mit devant les yeux.
Vous pensez bien que nous sommes en règle.
Il l'était, en effet, au moins autant que Sénéry, dans son trouble, put en juger par les signatures et les cachets. Il n'y avait qu'à céder à la force. Cependant, une dernière tentative de résistance s'éleva encore en lui.
« Il y a une erreur, dit-il. Conduisez-moi chez le sous-préfet, chez le procureur impérial. »
J'ai l'ordre de vous conduire au Lua. « Voulez-vous marcher ?»
Contre un danger immédiat, dans une lutte, l'homme de cœur trouve toujours des forces pour se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Mais dans ces circonstances, que faire ? Le sentiment de son impuissance l'écrasait. Dans la même minute, il passait de la fureur à l'abattement. Et cherchant quelques moyens de défense, il ne trouvait rien. Est-ce donc qu'il devenait véritablement fou ?
Son cerveau semblait se vider, et il éprouvait au crâne une douloureuse sensation de brûlure, comme si le bouillonnement du sang le soulevait.
Les gendarmes le regardaient en attendant qu'il fît un mouvement. À la fin, le maréchal des logis se pencha sur lui.
« Voyons, monsieur des Turquerets, dit-il avec douceur, « il faut vous lever et marcher.
Déliez-moi. »
Ils défirent les cordes qui attachaient les jambes, et l'un d'eux, le prenant par les épaules, le remit sur ses pieds. Les cordes, serrées avec force, avaient arrêté la circulation du sang. Il faillit tomber, et il fallut le soutenir. Il tendit les mains pour qu'on le débarrassât des menottes, mais le maréchal des logis refusa.
« Vous comprenez bien que c'est toute notre sûreté, » dit-il.
Une fois debout, il respira plus facilement. Les gendarmes, défiants, craignaient le moment où il retrouverait ses forces. Il montra au contraire une tranquillité qui prouvait que sa raison lui revenait en même temps. Son parti était pris. Obéir, car toute résistance serait inscrite au compte de la folie, et plus tard exploitée. Par la soumission d'ailleurs, il pourrait peut-être gagner les gendarmes et les décider à le mener, avant le départ, au camp Hérou pour embrasser Cyprienne et Henriot. À cette demande, doucement présentée, Le maréchal des logis commença par répondre un non énergique. Mais ce n'était pas un méchant homme. Sénéry faisait valoir qu'il avait besoin de changer contre d'autres ses vêtements en lambeaux. Il parlait d'embrasser sa femme, son enfant. Après tout, ce n'était ni un assassin ni un voleur, mais un monsieur. Il s'était défendu brutalement, cela est vrai. Mais lui, maréchal des logis, n'avait rien reçu. Enfin, on ne pouvait pas savoir ce que réservait l'avenir. Il ne resterait pas toujours fou, peut-être. Il avait des amis puissants. Il se décida à tâcher de tout concilier. Ce qu'on lui avait ordonné, c'était de conduire M. des Turquerets à la ferme du Luat. Qu'il y arrivât une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard, cela ne devait pas avoir grande importance. Sénéry savait que Cyprienne était encore couchée et que par conséquent, elle ne pourrait pas le voir entrer au château en compagnie de ses gendarmes, les menottes aux mains. Il ne craignit donc pas de lui porter un coup trop violent et il précéda les gendarmes comme s'il les conduisait gracieusement chez lui. En apercevant ce singulier cortège, les gens de service qui travaillaient dans la cour d'honneur s'arrêtèrent stupéfaits et pas un n'osa avancer. Voulez-vous me permettre de prévenir madame par un mot ? Dit Sénéry. Je voudrais lui épargner la violence du coup. Le maréchal des logis hésita. Vous lirez ma lettre ? Continua Sénéry, décidé à aller jusqu'au bout dans la voie de la soumission la plus absolue. Mais les menottes trop serrées le gênaient pour écrire, et il fallut qu'un gendarme lui rendît un peu de liberté. Sa lettre ne renfermait que quelques lignes. « Je viens d'être arrêté par les gendarmes, c'est un nouveau coup de friardelle. Descends m'embrasser avec Henriot avant que je parte pour la ferme du Luat où l'on me conduit. » Une minute ne s'était pas écoulée depuis la sortie de la femme de chambre à laquelle il avait remis ce billet quand Cyprienne parut, portant Henriot dans ses bras. Elle vit Sénéry assis sur une chaise, les mains attachées par une chaîne, les vêtements déchirés, la figure pleine de poussière et de boue, la chemise tachée de sang. Elle poussa un cri de douleur et se jeta sur lui. « Ils t'ont blessé !» Et menaçante de colère, frémissante d'indignation, elle se tourna vers les gendarmes. Il s'efforça de la rassurer et de lui expliquer ce qui se passait. Mais il fallut longtemps avant qu'elle comprît et admit qu'on l'arrêtait pour le conduire dans une maison de fous. Cela lui paraissait si monstrueux, si impossible, qu'elle se demandait si elle n'était pas folle elle-même, ou bien si elle n'était pas en proie à un horrible cauchemar. Puis, quand elle était écrasée sous l'évidence, une atroce douleur la paralysait, et ses larmes coulaient sans qu'elle pût prononcer une seule parole. Henriot, que le costume des gendarmes étonnait, s'amusait à frapper le parquet avec le fourreau de leurs sabres. Sénéry voulut abréger cette séparation, horrible pour lui aussi bien que pour Cyprienne. La voiture qu'un des gendarmes était allé chercher venait d'entrer dans la cour. Il fit un signe furtif au maréchal des logis. « Allons, monsieur, » dit celui-ci, heureux de mettre fin à une situation qui le gênait. « Il faut partir. » Cyprienne, éperdue, se cramponna à lui. Il l'emmena à l'autre bout de la pièce et, se penchant sur elle, car les menottes l'empêchaient de la prendre dans ses bras. « Si tu veux me sauver, » lui dit-il à l'oreille, « sois forte. Cette arrestation est un moyen désespéré de friardelle. Elle ne pourra pas être maintenue. Demain, peut-être. Dans quelques jours, je rentrerai ici. En attendant, tu vas aller tout de suite à Condé. Tu enverras une dépêche à Éloui. Puis tu t'entendras avec Pioline sur les mesures à prendre immédiatement s'il y a lieu. Embrasse-moi, et tiens Henriot que je l'embrasse. » Quand il parut sur le perron, les domestiques étaient dans la cour et discutaient entre eux à voix basse. Il s'arracha au bras de Cyprienne et monta en voiture, soutenu par un gendarme. Ils partirent au grand trot. Il se retourna et il vit Cyprienne, debout sur le perron, immobile comme il l'avait laissé. Henriot, pendu à son cou, pleurait. Ses cris, malgré le bruit de la voiture, arrivèrent jusqu'à lui. On savait déjà dans le village que les gendarmes étaient venus arrêter M. des Turquerets, et tout le monde était sur le pas des portes pour le voir passer. Quand il parut dans la charrette, les menottes aux mains, assis à côté du maréchal des logis qui conduisait, tandis que les deux autres gendarmes sur la banquette de derrière étaient prêts à le retenir au premier mouvement, il y eut parmi ces paysans fort peu sensibles comme un courant de sympathie. Hommes et femmes, chacun saluait. Une distance de 5 lieues sépare le camp Héroux du Lua. Avec le mauvais cheval qui était attelé à leur carriole, il leur fallut près de 3 heures pour le franchir. La ferme du Lua n'est point un établissement public destiné à recevoir et à soigner les aliénés, mais un établissement privé, fondé il y a une dizaine d'années par un certain abbé Batandier, plus homme d'affaires que prêtre, qui, à la suite de difficultés avec son évêque, avait ouvert au Lua une maison de santé sous le nom d'un médecin de ses amis, M. Mazure. Les commencements des deux associés avaient été pénibles et un prospectus que tous les journaux publièrent à cette époque donnera une idée de leur manière de procéder. M. Mazure, médecin et fondateur de la ferme du Lua, où il traite avec succès, selon la méthode de M. l'abbé Batandier, la folie et toutes les maladies nerveuses, telles que l'épilepsie, la chorée, etc., etc., est heureux de pouvoir annoncer au public que cette maison, comme la poule qui, pleine d'une sollicitude maternelle pour sa chair couvée, étend ses ailes, a aussi dilaté l'aile droite de ses bâtiments en faveur de la pauvre humanité, afin de recevoir dans son sein un plus grand nombre d'infirmes. Cet établissement, créé dans une contrée salubre, au milieu d'une forêt magnifique dont il est séparé seulement par une belle plaine, peut recevoir un grand nombre de malades. Ce sont là des conditions comme peu d'autres maisons en France ou à l'étranger peuvent en offrir. Les malades qui, par leurs habitudes, ont besoin de travailler sont employés à la culture. Ceux, au contraire, que leur éducation et leur goût ont toujours éloignés d'un labeur manuel, peuvent se promener sous les ombrages de la forêt sans craindre qu'un regard curieux vienne les reconnaître et signaler au monde leur triste position passagère. Mais cette précieuse maison n'offre pas que des avantages pour le corps. Elle offre aussi à l'âme, au milieu du désert aride de cette vie, une charmante oasis qui seule peut lui faire oublier les peines de son triste pèlerinage. Je veux dire une chapelle dédiée à Marie Immaculée où Monsieur l'abbé Batandier veut bien tous les jours faire descendre du ciel la grande victime au milieu des affligés pour l'intéresser en leur faveur. Le prix de la pension a été établi de manière à satisfaire toutes les fortunes, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites, et par conséquent laisser à toutes les familles le doux espoir de voir rentrer plein de santé leurs chers infirmes au sein de la société dont ils étaient bannis pour toujours. Grâce à ce mélange de mercantilisme et de religiosité, la poule avait peu à peu dilaté ses ailes, et les constructions s'étaient ajoutées aux constructions. À l'imitation de ce que les frères Labitte ont si admirablement réalisé à Clermont, dans leurs fermes de Fitz-James et de Villers, l'abbé Batandier avait établi au Lua une colonie agricole pour les aliénés pauvres. Et comme il se trouvait au centre d'un pays où tout le monde a l'habitude du travail des champs, il avait pu faire au département, qui n'avait pas d'asile public, des propositions au-dessous de celles des autres établissements. On sait que quand les départements sont dans ce cas, ils sont autorisés à placer leurs aliénés dans un asile privé, où on les reçoit moyennant une pension fixée d'avance. Les prix varient généralement depuis 1 franc 20 jusqu'à 1 franc 50. Lorsqu'on reçoit des aliénés de tous les pays, on ne peut pas leur demander une grande somme de travail agricole, comme à Clermont par exemple, où les Parisiens, lorsqu'il y en avait, ne voulaient absolument rien faire. Mais au contraire, quand ce sont en majorité des paysans, le produit de leur travail entre en décompte de leurs dépenses. C'était sur ce calcul qu'avait raisonné l'abbé Batandier, et c'était ce qui lui avait permis de ne demander qu'un franc pour les hommes et 90 centimes pour les femmes. Ainsi, au moment où Sénéry était dirigé vers le Lua, L'établissement avait-il atteint un haut point de prospérité? Il n'avait plus besoin de prospectus, ni de commis voyageurs pour attirer les malades. Les pensionnaires, hors ligne, et ceux qui étaient soumis au régime commun, affluaient de tous côtés. Ce qui s'était produit au camp Hérou se renouvela dans chaque village qu'on traversa. En voyant venir de loin un monsieur entre trois gendarmes, les paysans accouraient au devant de la voiture, et comme Sénéry était connu, c'était partout des cris d'étonnement.
« As-tu vu? C'est monsieur des Turquerets ?
Celui du camp Hérou ? Qu'est-ce qu'il a donc pu faire, mon Dieu ? A-t-il assassiné ?»
La carriole passait, et derrière elle des groupes se formaient. Sénéry, absorbé dans sa préoccupation, était fort peu sensible à cette curiosité. Malgré les assurances qu'il avait voulu donner à Cyprienne, il était mal rassuré lui-même sur les résultats de son arrestation. Quelles ressources la loi lui offrait-elle pour se défendre? Il n'en savait absolument rien. Mais il sentait que, jusqu'au moment où cette défense serait organisée par Éloi, il devait veiller sévèrement sur lui-même et ne pas commettre l'imprudence la plus insignifiante. Sa lutte contre les gendarmes était déjà un fait grave. Toute violence serait de la folie. Alors il s'excitait au calme, se promettant de tout supporter jusqu'à l'heure où Éloi arriverait à son secours. Combien faudrait-il de temps pour cela? Réussirait-on? Et à la pensée qu'il allait rester enfermé dans cette prison, avec de vrais fous, un mois, 6 mois, peut-être toujours, il regardait autour de lui. Instinctivement, il cherchait s'il ne trouverait pas un moyen de s'échapper. Et les idées se succédaient aux idées dans son cerveau enflammé. Plusieurs fois, il fit arrêter la voiture pour boire. Mais à peine avait-il bu que la salive se séchait dans sa gorge. Enfin, on arriva. La voiture s'arrêta devant une grande porte qui s'ouvrait au milieu d'un long corps de bâtiment n'ayant pas de fenêtre sur la rue. Un gendarme sonna et la porte roula doucement sur ses gonds. La voiture à peine entrée, elle se referma avec un bruit sourd et discret. Un domestique en tablier blanc vint prendre le cheval par la bride. « C'est monsieur des Turquerets, n'est-ce pas ? » dit-il au maréchal des logis, sans plus se soucier de Sénéry que si celui-ci avait été mort. « Je vais vous conduire au cabinet du directeur. On vous attend. » Chapitre 15. Introduit dans ce cabinet avec le maréchal des logis, tandis que les deux gendarmes restaient dans la cour, Sénéry se trouva en présence d'un petit homme à cheveux grisonnants, vêtu d'une sorte de costume ecclésiastique. Pantalon noir et redingote longue, boutonné avec des petits boutons comme une soutane. C'était l'abbé Battandier. « Monsieur le directeur, » dit le maréchal des logis, « voici monsieur le vicomte des Turquerets que j'ai été chargé d'arrêter et de déposer entre vos mains. » Pendant que le gendarme parlait, l'abbé Battandier regardait Sénéry. Ses yeux fauves étaient si ardents que celui-ci, mal à l'aise, baissa les siens. Jamais il n'avait vu, excepté chez les chats, une pupille douée d'une telle puissance de contraction et de dilatation. Lorsqu'elle s'ouvrait, elle semblait darder une flamme comme ces lampes à gaz dont on se sert pour fondre et souder les métaux.
« Eh quoi ? » fit l'abbé d'un ton surpris. « Les menottes ? Dame, il a bien fallu. Monsieur des Turquerets s'est terriblement défendu. Il a presque tué un de mes hommes. » « Ah, de la violence, de la fureur. Fâcheux, très fâcheux. Mais c'est égal, défaites-moi cela. Ici, nous ne nous servons pas de ces instruments de torture. »
La serrure ouverte, les poignets de Sénéry apparurent, rouges et tuméfiés. La peau était déchirée et usée par places. « Vous pouvez nous laisser, » dit l'abbé Battandier d'une voix sévère. « Passez au bureau, on régularisera vos pièces. » Puis quand le gendarme fut sorti honteusement, il vint à Sénéry et lui prenant délicatement les mains.
« Ah, mon cher fils, » dit-il, « combien je regrette cette brutalité !»
Cette marque d'intérêt émut Sénéry. Il crut qu'il avait trouvé un défenseur, un libérateur peut-être. « La douleur physique n'est rien, » dit-il, « et je souffre moins de ces poignets meurtris que de colère, d'indignation et d'inquiétude.
Du calme, n'est-ce pas ?
Soyez tranquille, monsieur, c'est justement par le calme que je veux vous prouver que je suis victime d'une infâme persécution.
Chut, chut, pas de mots pareils. Si le docteur Mazure vous entendait, ce serait très grave. Vous savez bien que nous vivons dans un temps où la persécution n'est pas possible. Pour admettre la persécution, il faut nécessairement admettre aussi les persécuteurs. Où sont-ils ? Est-ce monsieur le préfet ? Est-ce moi ? Une personne jouissant de sa raison ne peut pas le croire. Je dois même vous avertir que voir partout des persécuteurs est pour nous le signe le plus certain de l'hallucination. »
Ces paroles, soufflées avec une discrétion onctueuse, éteignirent brusquement la lueur d'espérance qui avait commencé à s'allumer dans l'esprit de Sénéry. Que de choses à répondre, que d'explications à donner. Combien cette persécution était facile à montrer, à prouver. Mais il fallait se contenir et ne pas engager une discussion dangereuse.
Puisque je ne dois pas parler de persécution, permettez-moi de vous dire que je suis victime d'une erreur,
oui, d'une erreur déplorable.
Oh, pour cela, mon cher enfant, tout ce que vous voudrez, tout le monde est sujet à l'erreur. Et vous pouvez être assuré d'avance que si vous êtes, comme vous me le dites, victime d'une erreur, nous ferons ce qui sera en notre pouvoir pour la réparer.
De quelle erreur vous plaignez-vous ?
Mais de celle qui me fait enfermer dans cette maison sous une accusation de folie. Interrogez-moi, examinez-moi, et vous verrez que ma raison est, je ne dis pas celle d'un homme remarquable, mais sensée, saine, capable de me conduire dans la vie. Faites cet examen vous-même, faites-le faire par les médecins de votre établissement, et, convaincu que je ne suis pas fou, rendez-moi la liberté. »
Jamais Sénéry n'avait éprouvé pareille difficulté à s'exprimer. C'était avec anxiété qu'il suivait l'effet de ses paroles dans les yeux de son juge. « Un mot trop vif, se disait-il, et je suis perdu. »
« Quant à étudier votre état mental, répondit l'abbé, c'est à quoi nous nous appliquerons, monsieur le docteur Mazure et moi. Mais vous rendre la liberté, nous n'en sommes pas les maîtres. Vous oubliez que vous m'êtes confié par monsieur le préfet. »
Et si je ne suis pas fou?
Nous en avertirons monsieur le préfet qui avisera.
Comment? Vous me garderez et c'est le préfet qui, sans m'avoir vu, m'a fait enfermer comme fou, qui, sans me voir davantage, me relâchera ou me gardera selon son bon plaisir?
Voilà que vous vous emportez encore.
Ce n'était pas cela que vous m'aviez promis.
Non, monsieur, je ne m'emporte pas. Je tâche, vous voyez bien que je tâche de comprendre. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas, il me semble, la faute de ma raison si je ne peux pas me rendre compte de la position qui m'est faite. Il y a un mois, on forme contre moi une demande en interdiction. L'affaire est pendante devant le tribunal. Pourquoi m'arrête-t-on avant de savoir s'il me déclarera ou ne me déclarera pas fou ?
Parce que, suivant la loi de 1838, le préfet d'un département peut ordonner le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Mais je n'ai pas troublé l'ordre public et n'ai jamais menacé la sûreté de personne.
Vous le croyez, j'en suis certain. Les rapports présentés à monsieur le préfet disent le contraire.
Mais ces rapports sont mensongers, c'est une nouvelle infamie.
Vous voyez, dit l'abbé en levant doucement le doigt, toujours de l'exaltation.
Les gouttes de sueur perlaient sur le front de Sénéry et tombaient sur ses mains, car dans sa volonté de se contenir, il s'était imposé de ne faire aucun geste, et il parlait en tenant ses deux mains enlacées sur ses genoux.
« Vous avez raison, dit-il, pardonnez-moi. »
« Mon cher fils, continua l'abbé, il ne faut pas penser que vous avez été arrêté arbitrairement. Dans votre état, rien ne serait plus mauvais qu'une pareille idée. Tenez, voici l'arrêté de monsieur le préfet, lisez-le. Vous verrez que cet honorable magistrat a eu des motifs sérieux pour le prendre. » Il chercha dans une liasse de papier et, ayant trouvé l'arrêté qui concernait Sénéry, il le lui présenta. Puis, pendant que celui-ci lisait, il sonna, un domestique parut. « Dites à monsieur le docteur Mazure que je désire lui parler aussitôt que possible. » Indifférent à ce qui se passait autour de lui, Sénéry avait saisi cet arrêté, mais ses mains tremblaient tellement que pour le lire, il fut obligé de le poser sur un bureau. Voici comment il était conçu. Nous, préfets, etc., vu le rapport qui nous est adressé par monsieur le sous-préfet de Condé-le-Châtel, tendant à ce que nous prescrivions d'office le placement du nommé Sénéry Boimard, vicomte des Turquerets, au quartier d'aliénés du Lua. Vu le certificat délivré par monsieur Gillet, médecin à Condé-le-Châtel, constatant que ledit Sénéry des Turquerets est atteint d'aliénation mentale et, comme tel, dangereux pour la sûreté des personnes. Vu un certificat de monsieur le maire du camp Héroux sur la position de fortune de l'aliéné. Vu la loi du 30 juin 1938 et les instructions de monsieur le ministre de l'Intérieur pour l'exécution de cette loi. Considérant qu'il est constaté par les pièces ci-dessus visées que, premièrement, il y a 2 mois, le nommé Sénéry des Turquerets s'est livré à des actes de violence sur le nommé Tournebus, en lui portant des coups qui ont occasionné des blessures graves. Deuxièmement, aussitôt qu'il a connu la demande en interdiction formée contre lui, il a couru chez son père, s'y est introduit de force en brisant les portes, maltraitant les domestiques, et qu'il s'y est livré aux désordres les plus graves. Troisièmement, il y a quelques jours, il a donné l'ordre à ses gardes de tirer sur les nommés Tournebus et Vatier, ni plus ni moins que s'ils étaient des chiens, et qu'il les a menacés de tirer lui-même. Quatrièmement, le même jour, il s'est précipité sur son beau-frère, monsieur le baron Friardel, et qu'après l'avoir injurié de la façon la plus grave, il a tiré sur lui un coup de son fusil de chasse, et que, ne l'ayant pas atteint, il l'a poursuivi à travers la plaine pour lui décharger son second coup, auquel monsieur le baron Friardel n'a échappé que par une fuite rapide. Ces derniers faits résultant d'une déposition du nommé Bonjour et de sa femme, qui, travaillant dans les champs, à peu de distance du lieu où la scène se passait, en ont été témoins. Ladite déposition reçue par monsieur le juge de paix de Saint-Glais. Arrêtons. Article 1er. Le nommé Sénéry des Turquerets sera conduit à l'asile des aliénés de Lua pour y être enfermé. Article 2. Il y sera soumis immédiatement aux examens et traitements par les médecins à se préposer et tenu à notre disposition jusqu'à la justification de sa guérison. Article 3. Le présent arrêté sera adressé à monsieur le sous-préfet de Condé-le-Châtel qui en fera faire notification. 1. À la famille. 2. À monsieur le directeur du Lua. 3. À monsieur le procureur impérial. À cette pièce était jointe une autre pièce, le certificat du docteur Gillet. Je sous-signé, docteur en médecine, certifie que monsieur Sénéry des Turquerets est atteint d'aliénation mentale caractérisée par des conceptions délirantes, des hallucinations, le délire de persécution avec perversion des facultés morales. Que cet état lui enlève la conscience et la responsabilité de ses actes, ce qui, avec les accès de fureur dans lesquels il tombe fréquemment, le rend dangereux pour la sûreté des personnes et aussi pour lui-même. Suivant ma conviction, un homme dans l'état où se trouve M. Sénéry des Turquerets ne jouit pas de son libre arbitre. Pourquoi je suis d'avis qu'il ne peut être rien fait de plus convenable que de l'isoler momentanément dans une maison d'aliénés pour y être traité. Gillet. Pendant cette lecture, un homme de 50 ans, de tournure leste et joviale, entra dans le cabinet. C'était le docteur Mazure. Il fit un signe d'interrogation à l'abbé Batandier, qui répondit en haussant les épaules d'un air de pitié. Après avoir achevé la lecture du certificat, Sénéry demeura accablé, les bras pendants, le corps affaissé. Il était dans un état complet de prostration. « Vous voyez ?» dit l'abbé Batandier. Sénéry releva la tête. « Faites de moi ce que vous voudrez. dit-il désespérément. « Je ne sais pas ce que mes amis trouveront pour me défendre. Moi, je me rends. » Puis, se levant, les poings serrés, « Et pourtant !» s'écria-t-il avec une violence concentrée. Mais ce ne fut qu'un éclair, il se rassit. « À quoi bon ? Je ne sortirai pas du cercle qui m'enserre. » « Vous voyez votre persécuteur ? » demanda l'abbé. « Je sens sa puissance et son habileté. Elle m'écrase. » L'abbé et le docteur échangèrent un regard pour se confirmer mutuellement leur opinion. Halluciné, archi-halluciné, délire de persécution. Si accablé qu'eût été Sénéry par la lecture de l'arrêté du préfet et le certificat de Gillet, qui lui avait fait comprendre combien habilement Friardel avait organisé son attaque, toute espérance n'était pas encore éteinte en lui. Courber la tête sans lutter était une lâcheté. Il était devant deux hommes de qui dépendait son sort. Peut-être était-il gagné par Friardel, mais peut-être aussi était-il parfaitement indépendant, sensible seulement à la vérité et à la justice. Cela même paraissait probable, leur position et leur réputation étant une sorte de garantie. Dans ce cas, il ne fallait donc pas déserter la bataille et reculer avant d'avoir combattu. « Monsieur le docteur, dit-il en s'adressant à Mazure, je suis ici pour être examiné par vous. Je me mets à votre disposition. J'ai déjà subi un interrogatoire devant le tribunal. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser. » « Sans doute, nous procéderons à cet examen, et il sera attentif, mais le moment n'est pas venu. Cependant, pour me garder ici, il faut que je sois fou, n'est-ce pas? Si vous ne m'examinez pas, comment saurez-vous si je le suis ou ne le suis pas? Si précisément je ne le suis pas, comme je le soutiens, à quel titre me retiendrez-vous ? Mon cher monsieur, il faut pour que je vous examine que vous soyez dans votre état normal. Or, vous êtes sous une influence. Quelle influence ? Demanda Sénéry, qui n'avait pas l'habitude de ces formules toutes faites, si commodes pour répondre sans répondre. L'influence qui vous a fait casser la figure de ce pauvre gendarme. Je viens de le penser. Jamais malade, même dans les accès les plus violents, n'a donné pareil coup de poing. C'est que vous n'avez jamais eu de malade pratiquant la boxe anglaise. Heureusement. Comment avez-vous pu, demanda l'abbé, vous laisser aller à une pareille violence? Je ne me donne pas pour une nature calme, je suis au contraire d'un caractère emporté. Si je ne cédais pas à l'emportement, il me semble que justement alors je n'aurais pas ce caractère. L'homme, jouissant de sa raison et qu'on vient arrêter sous une accusation de folie, prouve sa raison par son calme. S'il a le libre usage de son intelligence, il sait qu'en obéissant à la violence, il nuit à son intérêt. Comment n'avez-vous pas réfléchi à cela? L'homme qui s'enivre sait qu'en buvant, il nuit à son intérêt. Ceux qui cèdent à leur passion ou à leur caractère, quoiqu'ils sachent d'avance où leur faiblesse les conduira, sont donc fous? Bon ou mauvais, je n'ai jamais pu y résister à mon premier mouvement. Le docteur fit un signe à l'abbé. Cette conversation, cette dispute, commençait à lui paraître un peu longue. L'heure de son déjeuner avait sonné, et son estomac n'aimait pas à attendre. Si l'on écoutait ainsi tous les malades, on n'en finirait jamais, et l'on ne tarderait pas à se donner une bonne dyspepsie. « Nous reprendrons cette discussion, dit-il. Pour aujourd'hui, vous avez besoin de calme et de repos. Il ne faut pas vous exciter. Vous causez, cela vous est mauvais. » Vous me gardez ici ? S'écria Sénéry. Sans doute l'exclamation était bien ridicule, car ils ne purent cacher un sourire de pitié. Vous n'avez donc pas lu l'arrêté de monsieur le préfet ? Demanda l'abbé. Il dit que je serai retenu jusqu'à justification de ma guérison. Puisque je ne suis pas malade, ma guérison n'arrivera jamais. Alors vous me garderez donc toujours ? C'étaient les portes de la prison éternelle qui se fermaient sur lui, pour ne se rouvrir peut-être jamais. Moralement, il se débattait, comme le matin il s'était débattu physiquement contre les gendarmes.
De grâce, messieurs, procédez à cet examen que demande le préfet.
Mon cher monsieur, dit le docteur avec une impatience qu'il ne se donna pas la peine de cacher. On ne constate pas une maladie mentale comme une fracture ou une contusion. Il faut du temps, de la réflexion. Comprenez-vous cela ?
Oui, chez un malade, mais chez un homme sain.
Nous tournons dans un cercle vicieux. Demain, je vous examinerai. Après-demain, tous les jours. Et c'est sur cette série d'études que je baserai mon opinion. Vous avez contre vous le certificat du docteur Gillet, un homme considérable par son savoir et sa position. Croyez-vous que je vais donner à un confrère un démenti à la légère, si comme vous le prétendez, il s'est trompé ?
Alors, vous acceptez ce certificat d'un homme qui ne m'a pas examiné ?
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Mais ce certificat est faux.
Vous voyez que l'exaltation vous reprend quand on aborde certains sujets. Si je vous laissais aller, vous me diriez, j'en suis sûre, que c'est une manœuvre de vos persécuteurs.
Manœuvre de mon persécuteur, oui. Manœuvre ou erreur du docteur, gagnée ou trompée, oui encore. Je vous l'expliquerai, et je vous le prouverai si vous vouliez m'écouter. Tout est là, messieurs. Donnez-moi quelques minutes, et je vous montre clair comme le jour toute la trame de cette persécution.
Le docteur s'était dirigé vers la porte. Sénéré voulut le suivre, se cramponner à lui comme le misérable naufragé se cramponne à tout ce qui peut le sauver. Mais le docteur était habitué à échapper adroitement au fou qui chaque jour le poursuivait dans sa visite. En un tour de main, il se trouva dehors et la porte fut refermée.
« Monsieur, dit Sénéry revenant vers l'abbé Battandier, je suis à bout de force. Faites-moi conduire là où je dois être enfermé. J'ai peur de moi. »
« Allons, du calme, mon cher enfant, pas d'exaltation. Ne vous effrayez pas, ne vous faites pas de fantômes. Cette maison n'est pas une prison, Dieu merci. Je vous verrai tous les jours, vous me direz vos besoins, je tâcherai de les satisfaire. Pour aujourd'hui, si je suis obligé de prendre certaines précautions, n'en accusez que votre état d'exaltation et vos violences contre les gendarmes. Nous avons une lourde responsabilité. »
Il sonna. « Avertissez le surveillant de Saint-Charles de venir, » dit-il au domestique.
Puis, pendant que cette commission s'accomplissait,
« Mon cher enfant, » dit-il à Sénéry, « vous verrez que le régime de la maison est très doux et qu'on a pour les malades tous les égards possibles. Mais je dois vous prévenir que si l'on manque à la règle de la discipline, on est exposé à des mesures de rigueur. »
« Je suis votre prisonnier. »
« Quel mot ! Si je n'étais pas votre prisonnier, je serais votre malade. Cela, je ne peux pas le reconnaître. »
Le surveillant ouvrit la porte. C'était un grand gaillard, solidement bâti, aux épaules larges, à barbe noire et rude.
« Adieu, mon enfant, » dit l'abbé Battandier. « À demain. »
« Montrez-moi le chemin, » dit Sénéry au surveillant lorsqu'ils furent descendus dans la cour.
« Non, monsieur, marchez devant moi. »«
Mais n'ayez pas peur, je ne veux pas me sauver. »«
Je ne dis pas, mais j'ai vu votre gendarme. »
Le Lua ne ressemble en rien à ces grands établissements qui, construits d'un seul coup, sur un plan général, ont été rigoureusement appropriés à leur destination. C'est un ensemble de bâtiments juxtaposés qui ont été élevés au hasard à mesure que l'argent tombait dans la caisse de l'abbé Battandier. De là, des difficultés de communication des uns aux autres, beaucoup de corridors, de portes, de serrures. Tout en marchant, Sénéry jetait les yeux à droite et à gauche. Il n'avait aucune idée de cette petite ville de 1200 habitants. C'était là désormais qu'il allait vivre. Combien de jours, combien de mois faudrait-il à Cyprienne et à Éloui pour le tirer de prison ? On longeait des magasins, des granges, des cuisines. Des gens vêtus de blouses de toile, au regard hébété, s'arrêtaient pour les voir passer. Il y avait des bâtiments d'où partaient des cris, d'autres autour desquels régnait un silence de mort. Il marchait sans échanger une parole, le surveillant immédiatement sur ses talons et bien certainement à la longueur du bras. Comme l'espace n'avait pas été ménagé lors de la construction des bâtiments, Ils avaient quelquefois d'assez grands espaces à parcourir en plein air pour passer d'une maison à l'autre. Ces espaces étaient occupés par des jardins plantés de gros légumes, des choux, des salades. Pas un pouce de terrain n'était perdu. Où les légumes ne pouvaient croître, s'élevaient des hangars pour le fourrage, des amas de bois ou de fagots. À chaque porte, le surveillant se présentait le premier, l'ouvrait avec une clé, qui était bonne pour toutes les serrures, et la refermait soigneusement. Enfin, ils arrivèrent devant un bâtiment carré à un seul étage, isolé au milieu d'un grand jardin. Par-dessus les murs de ce jardin, on apercevait d'un côté la plaine et tout autour la forêt, avec ses arbres que l'automne commençait à jaunir. Sénéré entendit une étrange confusion de cris, des plaintes, des rires, un brouhaha. Il se retourna vers le surveillant. « Qu'est-ce que cela ?»« C'est Saint-Charles, l'asile des agités. » Ils étaient arrivés à la porte que le surveillant ouvrit. Derrière cette porte pleine, à 5 ou 6 pas de distance, était une grille en fer. À travers cette grille, Sénéry aperçut, collée contre les barreaux, 2 ou 3 figures grimaçantes. Puis au-delà, dans la cour, des gens qui s'agitaient en tournant.
« C'est là que vous me conduisez ? » s'écria-t-il.
« Jamais !» Il recula. En même temps, le surveillant, qui était derrière lui, le saisit vivement par les cheveux et voulut le pousser en avant. Malgré la douleur, Sénéry se retourna et d'un coup de poing, le même qui était tombé sur le gendarme, il jeta le surveillant contre la muraille. Alors l'espèce du charme qu'il avait soumis se trouva rompu. Il oublia ses résolutions de calme et de résignation. Devant lui, par-dessus le mur, était la forêt. L'instinct de la liberté l'emporta. D'un bond, il fut dans le jardin. S'il gagnait les bois, il saurait bien se cacher, dépister les recherches. En se sauvant à l'étranger, il échapperait à cette prison. Le surveillant, en retrouvant son souffle après ce formidable coup de poing, fit entendre un sifflement. Aussitôt, 2 de ses camarades sortirent de l'asile. Il leur montra Sénéry courant à travers le jardin et tous 3 se mirent à sa poursuite. Mais il avait quelques secondes d'avance et d'ailleurs il était de beaucoup plus vite qu'eux. De loin, le mur ne lui avait pas paru très élevé. En approchant, il reconnut que la distance l'avait trompé et que ce mur avait près de 4 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'il était infranchissable sans aide. Des espaliers d'un an plantés au pied ne pouvaient lui être d'aucun secours. Fallait-il se rendre ? Dans un coin du jardin était un amas de perches, ou plus justement de petits arbres, de 7 ou 8 mètres de long, qui avaient servi à des échafaudages pour les maçons. Il courut vers ce tas, cela lui faisait faire un détour et le rapprochait des surveillants, mais c'était son seul moyen d'escalade. Qu'il pût dresser une de ses perches contre le mur, et pour un homme agile comme lui, rompu aux exercices de la gymnastique, c'était un jeu de gagner le chaperon. Arrivé au tas de perches, n'ayant pas le temps de choisir, il prit celle qui était dessus, la mit sur son épaule et courut vers le mur. Il était temps, les surveillants approchaient. Vivement, il abattit sa perche contre le mur et monta dessus à califourchon en s'aidant des bras et des jambes. Il allait atteindre le chaperon quand la perche cassa, brisée autant par les secousses qu'il lui imprimait que par la pourriture. Il tomba sur la terre, les surveillants arrivaient. En une seconde, il fut saisi et mis dans l'impossibilité de faire un mouvement. On le ramena vers l'asile. « Au bain !» dit le surveillant chef, celui qui avait reçu le coup de poing. On le conduisit dans une salle voûtée en pierre où on le déshabilla. 2 baignoires recouvertes d'un couvercle en tôle étaient à chaque extrémité. On découvrit l'une d'elles et on le plongea dedans. Quand il fut couché, on rapprocha le couvercle qui l'emboîta au cou de manière qu'il pouvait tourner la tête mais sans faire aucun mouvement. Puis sur la tête, on lui plaça une grosse éponge imbibée d'eau froide. Entre les mains des surveillants, il était devenu une chose inerte. La fatalité l'avait vaincu, il s'abandonnait à la fatalité. D'ailleurs, épuisé de fatigue et d'émotion, il n'avait plus la conscience de lui-même. Au bout d'une heure, 2 surveillants le tirèrent de la baignoire, lui passèrent ses vêtements et par-dessus une grosse veste de toile grise. la camisole de force. Stupéfait de sa docilité, il se tenait sur leur garde, s'attendant toujours à une nouvelle explosion. Mais il ne bougea pas. Alors ils ouvrirent une porte et le poussèrent doucement dans une cour, une sorte de préau entouré d'une galerie circulaire. 5 ou 6 hommes occupaient le milieu de la cour, d'autres se tenaient sous la galerie. Chacun semblait ne pas connaître son voisin. À peine eut-il fait quelques pas, qu'un homme à barbe blanche, décoré de la Légion d'honneur, se précipita vers lui.
« De grâce, monsieur, » dit-il, « prenez garde à vous, vous allez vous faire prendre dans la machine. »
Il regarda autour de lui et ne vit rien. « Quelle machine ? » dit-il.
« La machine qui vous soutirerait votre esprit, vous seriez perdu. »
Chapitre 16. Tandis que Sénéry était dirigé sur le Lua, Cyprienne courait à Condé-le-Châtel au bureau du télégraphe. Malgré son empressement fiévreux, il lui fallut longtemps pour faire sa dépêche. Les mots se heurtaient dans son esprit et les phrases s'enchevêtraient sans former un ensemble précis. Quand elle eut déchiré plusieurs feuilles, l'employé vint à son secours. « Pardon, madame, » dit-il poliment derrière son grillage. « Vous paraissez embarrassée. Veuillez faire votre dépêche comme une lettre ordinaire, et si vous le permettez, j'effacerai les mots inutiles. » Grâce à ce secours, elle arriva à dire à peu près ce qu'il fallait. « Sénéry, arrêté et conduit à la maison de fous du Lua, priait son ami Éloïe de venir aussitôt que possible. » Elle voulut attendre la réponse dans le bureau même. Mais cette réponse ne pouvait arriver aussi vite que le demandait son impatience. Ce fut ce que l'employé lui expliqua. Mais elle était dans un état de surexcitation à ne rien admettre. Et ce qu'elle comprit, c'est que le télégraphe était d'une lenteur désespérante. Assise sur un banc, elle passa là 2 heures d'angoisse. Chaque fois que la bande de papier sur laquelle s'impriment les dépêches se déroulait avec un petit bruit de dévidoir qui lui remuait le cœur, elle se levait et elle collait sa figure contre le grillage, comme si elle allait pouvoir lire cette réponse qui tardait tant. Et souvent, pendant ces 2 heures, la bande se déroula. C'est à croire que le bureau de Condé était un des plus occupés de France, ce qui n'est pas absolument vrai. Les règlements d'administration défendent que les employés de 2 bureaux se servent du télégraphe pour causer entre eux. Mais ce sont là des défenses de règlement qui n'ont jamais empêché 2 camarades, séparés par la distance, de faire un bout de causerie quand ils ont quelque chose à se dire ou quand ils s'ennuient trop dans leur bureau désert. On coupe la bande de papier qui a reçu ses épanchements intimes, on recolle les 2 bouts et les inspecteurs n'y voient que du feu. Si elle avait compris le tic-tic musical de l'appareil en mouvement, elle eût compris aussi qu'il était question d'elle. « Pendant que vous moisissez dans votre infect bureau, » disait l'employé de Condé à son camarade, « n'ayant pour compagnie que votre ex-gendarme et pour parfum que la puanteur de vos piles, moi j'ai le plaisir d'avoir devant les yeux une femme magnifique qui parfume mon bureau d'une douce odeur de violette et l'éclaire de sa beauté. »
« Blagueur !» répondait le camarade sur la bande qui se déroulait.
Et la conversation se continuait sur ce ton. Enfin, la réponse arriva.
« Madame, » dit l'employé, « c'est pour vous. »
À mesure que la bande se déroula, il lut tout haut la dépêche. « Monsieur Éloïe est parti en Espagne pour affaires importantes. On lui transmet votre dépêche. » Il ne pourra pas être de retour avant 7 ou 8 jours. » Ce fut pour Cyprienne une pénible déception, car elle avait cru que l'avoué n'avait qu'à paraître pour sauver Sénéry. 8 jours. On ne pouvait pas attendre 8 jours. Elle alla chez Pioline. Comme toujours, celui-ci était à son étude. Il ne montra aucune surprise au récit de Cyprienne.
« Je n'oserais pas dire que je m'attendais à cela, » fit-il doucement. « Mais la vérité est que je m'attendais à quelque chose. Il fallait bien penser que M. Friardel se retournerait quand il verrait que l'affaire allait mal pour lui. Et elle allait mal, très mal. » «
Maintenant, qu'allez-vous faire ? interrompit Cyprienne, qui n'avait souci que de l'heure présente. Maintenant, les choses ont changé de face, mais malgré cela, elles ne sont pas désespérées.
Désespérées ?
Je veux dire inquiétantes. Elle avait cru que Pioline, en apprenant l'arrestation de Sénéry, allait courir chez le procureur impérial, le sous-préfet, une puissance quelconque, et d'un mot le faire mettre en liberté. C'était ainsi que son ignorance de femme, son impatience et son anxiété arrangeaient les choses. Au lieu de cet empressement, il montrait de l'embarras et ne proposait rien.
« Il faut agir !»«
La loi nous trace son chemin. Nous allons nous pourvoir devant le tribunal, afin qu'il ordonne la sortie de M. Détourquerey.
Quand aura lieu cette sortie ?»
Après que les médecins nommés par le tribunal auront vérifié son état et fait un rapport favorable.
Cela va prendre du temps.
Peu. Nous introduisons notre requête immédiatement. Le tribunal nomme ses experts, ceux-ci se transportent au LUA, examinent M. Détourquerey, font leur rapport, et le tribunal rend sa décision sans délai. Avant 8 ou 10 jours, il peut être en liberté.
8 jours ? Vous voulez qu'il reste 8 jours dans cette maison de fous? C'est impossible. Il doit y avoir un autre moyen plus rapide.
Je n'en vois pas.
Puisque c'est le préfet qui a ordonné l'arrestation, il doit pouvoir ordonner la sortie, sans passer par toutes ces formalités. Adressez-vous au préfet.
Les femmes ont une façon particulière de comprendre les affaires et de les décider d'instinct par des moyens rapides tirés du droit naturel ou du droit raisonnable, façon qui n'est pas celle des hommes, encore moins des hommes de loi. Aussi Pioline eut-il beaucoup de peine à persuader Cyprienne de l'excellence de son conseil. Malgré tout ce que lui avait dit Louis, il n'était à ses yeux qu'un avoué de province et dans les conditions présentes, elle eût voulu une autorité parisienne. C'était le malade qui croit que Nélaton ou Grisole le sauvera. L'accusé qui n'a confiance pour le défendre que dans Berryer ou Jules Favre. Ce n'était pas assez d'avoir organisé la défense de Sénéry. Il fallait encore que celui-ci sût qu'il serait défendu et que dans sa prison, il ne restât pas livré aux angoisses de l'incertitude et de l'attente. Tout étant décidé avec Pioline, qui promit de ne pas perdre une minute, elle partit pour le LUA. La route voulait qu'on passât par le camp Héroux. Elle s'y arrêta quelques minutes pour changer de cheval. Mais malgré le train rapide dont elle fut conduite, ces 5 lieues lui parurent infinies. Dans chaque village, elle faisait arrêter pour demander s'ils étaient dans le bon chemin. Enfin se dressa devant elle un amas de constructions entourées de murs, et son cocher lui annonça que c'était la ferme du Lua. Elle n'avait pas besoin de cette parole, elle le savait déjà. Sa voiture venait de croiser une grande charrette de ferme. Sur l'un des chevaux était assis, les jambes ballantes, un homme en blouse bleue, à l'air hébété. Sa figure reflétait un sourire idiot et un bout de langue dépassait entre ses lèvres entrouvertes. Dans la charrette, adossée contre les ridelles, étaient 2 autres paysans avec exactement le même sourire et le même regard fuyant. C'étaient 3 pensionnaires de la ferme, 3 fous, employés aux travaux des champs, plus brutes assurément que les bêtes qu'ils conduisaient. À la pensée que c'était avec de pareils gens qu'il était enfermé, les larmes lui montèrent aux yeux.
Lui !
Mais ce n'était pas le moment de se laisser aller à l'émotion. Par un effort de volonté douloureuse, elle comprima les battements de son cœur et sonna à la porte où 3 heures auparavant avaient sonné les gendarmes qui amenaient Sénéry. On la conduisit au cabinet de l'abbé Batandier. En venant, elle n'avait pensé qu'à une chose, le voir, l'embrasser, le rassurer en lui disant les mesures prises par Pioline. Et l'idée ne s'était pas présentée une seconde à son esprit qu'on pouvait faire des difficultés et l'empêcher de pénétrer auprès de lui. Mais lorsqu'elle se trouva dans ce cabinet sombre, meublé de bustes en bronze, en face de ce prêtre médecin dont le regard la pénétrait, elle se sentit prise d'une vague inquiétude.
« Je voudrais voir Monsieur Détourquerey, » dit-elle.
« Monsieur Détourquerey ? » fit l'abbé sans répondre directement, et comme si on lui parlait d'un inconnu. « On a dû vous l'amener il y a quelques heures, » continua-t-elle. « J'ai besoin de le voir immédiatement. »
« En quelle qualité ?»
demanda l'abbé, ses yeux ardents et curieux toujours posés sur elle. Cyprienne pâlit, mais les coups qui depuis quelques jours s'étaient successivement abattus sur son cœur l'avaient déjà durci. Elle n'était plus dans les conditions où l'avait surprise l'huissier espérant Dieu. Elle leva la tête. « Je suis la mère de son fils. » L'abbé, qui la veille avait reçu la visite de Friardel, connaissait la situation fausse de Sénéré. Dans son récit, le baron n'avait eu garde d'oublier le portrait de Cyprienne. L'intrigante, la drôlesse, qui depuis 2 ans avait exercé une si fatale influence sur son malheureux beau-frère. Il fut surpris que la femme qu'il avait devant lui ressemblât si peu à ce portrait. Il savait se servir des yeux perçants que la nature lui avait donnés, et une longue pratique, jointe à une sagacité instinctive, ne lui permettait guère de se tromper sur une physionomie. Assurément, cette jeune femme n'était pas telle que le baron avait voulu la représenter. Ses manières s'adoucirent aussitôt. « Madame, » dit-il poliment, « il est vrai que Monsieur des Turquerets nous a été amené ce matin et qu'il est ici, mais à mon grand regret, je ne puis vous le laisser voir en ce moment. »
« Mais qui donc pourra pénétrer jusqu'à lui ?»«
Personne pour le moment. Monsieur des Turquerets est arrivé dans un état de surexcitation violente, après une scène déplorable avec les gendarmes. »«
Il s'était jeté brutalement sur lui. » »«
Sans doute, l'arrestation était maladroite, mais la défense a été plus maladroite encore. Un homme auquel on reproche la fureur évite avant tout de tomber dans cette fureur, au moins s'il est raisonnable. » Monsieur des Turquerets en est convenu avec moi, ce qui ne l'a pas empêché, lorsqu'on le conduisait à sa cellule, de se jeter sur les surveillants et de les rouer de coups.
C'est qu'il a été insulté, roudoyé. Est-il un supplice comparable au sien? Être traité en fou quand on est raisonnable, en misérable quand on est le meilleur et le plus honnête des hommes.
L'abbé eut un sourire de pitié, qui disait que dans sa maison on ne pouvait être ni rudoyé ni insulté, mais il ne voulut pas engager avec une femme une discussion sur ce point. « Monsieur des Turquerets, reprit-il, est dans un état qui exige le plus grand calme, et ce calme, il ne le trouvera que dans l'isolement. Voilà pourquoi je ne peux pas vous admettre auprès de lui. » Ce fut tout ce qu'elle en put obtenir. Aux prières, aux supplications, aux explications, il ne répondit que par ce seul mot, l'isolement. C'était le remède par excellence, l'unique remède. Elle voulut expliquer qu'il n'était pas malade. Il s'inclina, poliment, sans la contredire, mais sans céder. Elle sortit, indignée. Assurément, cet abbé était aussi un complaisant, un complice de Friardel. Sous le coup de la douleur et de la passion, elle ne pouvait pas comprendre qu'il obéissait tout simplement à un système, à son système, et cela de la meilleure foi du monde. Ceux qui ont approché les aliénés savent combien la folie est souvent difficile à reconnaître à première vue. Beaucoup de fous sont habiles à dissimuler, et lorsqu'ils sont sur leur garde, on peut les examiner longtemps sans qu'ils vous donnent une occasion de surprendre leur conception délirante. C'était sur cette règle qu'était basé le système de l'abbé Batandier. Tout individu qu'on amenait dans son établissement, il le regardait comme fou et le traitait en conséquence. Les symptômes n'éclataient pas les premiers jours, peu importait, c'est que le malade dissimulait, il fallait attendre, observer, un jour ou l'autre il se trahirait bien. Elle revint à Condé et se fit conduire chez Pioline, à qui elle raconta sa visite. « Il faut, dit-elle en terminant, que Sénéré sache que nous nous occupons de le délivrer. On m'a repoussée parce que je ne suis qu'une femme et que je n'ai pu que prier. Mais vous, un avoué, un homme d'affaires, vous saurez faire parler vos droits. Vous avez sa confiance, vous êtes chargé de sa défense. On ne pourra pas vous fermer la porte. » Pioline secoua la tête. « Est-ce que les avocats n'entrent pas dans les prisons ? continua-t-elle avec animation. « Vous le verrez, vous le rassurerez !» Il n'osa pas la refuser. Pour la seconde fois, la voiture reprit le chemin du Lua. Cyprienne voulut accompagner l'avoué, et il fut convenu qu'elle l'attendrait à la porte. Elle n'attendit pas longtemps, car on accueillit l'avoué exactement comme on l'avait elle-même accueilli 4 heures auparavant. « Monsieur des Turquerets doit être maintenu dans l'isolement, » dit l'abbé Battandier.
« Pour organiser sa défense, il faut que je confère avec lui. »
Et Pioline développa les raisons qui découlaient de cet argument. L'abbé ne répondit que par un mot, toujours le même, « l'isolement ».«
Au moins puis-je lui écrire, et ma lettre lui sera-t-elle remise ?»«
Je ne sais pas. C'est une question à laquelle monsieur le docteur Mazure répondra demain après sa visite, et la solution dépend de monsieur des Turquerets lui-même, c'est-à-dire de l'état dans lequel il sera demain. Sera-t-il calme, sera-t-il exalté, je n'en sais rien. Avant tout, il faut apaiser cette exaltation, et notre responsabilité nous oblige à écarter tout ce qui peut l'entretenir ou la rappeler. Voilà pourquoi, en ce moment, je ne crois pas pouvoir vous autoriser à le visiter.
C'est une véritable mise au secret.
Je ne connais pas ce mot. C'est l'isolement. Pioline n'était pas homme à céder à la colère. Aussi, comme son sang commençait à s'échauffer, jugea-t-il prudent d'abandonner la place. Le retour fut triste, pour Cyprienne désespérée.